Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio des stratégies et développement.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et start-up ont aiguisé notre sens business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe.
Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe.
Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui se passionne pour les marques équitables. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Alors aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel, déjà parce qu'il s'agit du premier épisode traditionnel qu'on enregistre en présentiel depuis le confinement, en dehors des épisodes de Good Bouffe, et aussi car notre casting du jour est hors du commun. Nous sommes aujourd'hui avec un ancien ministre de l'économie et un meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, rien que ça. Et sur le papier, donc, ils n'avaient pas grand-chose en commun, et pourtant, ils se sont retrouvés pour créer une marque équitable de glace artisanale 100% bio, la Mémère. Nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Montebourg et David Vesmael. Bonjour Arnaud, bonjour David.
Bonjour. Bonjour.
Alors dans Business of Bouffe, on a l'habitude de rentrer en détail dans le projet de nos invités, de découvrir leur parcours, leurs aspirations, leurs actualités. Avant cela, je vous laisse commencer par vous présenter rapidement, sachant qu'évidemment on a tout le temps du podcast pour venir en détail sur votre parcours et sur le projet. David, je te laisse commencer.
David Vesmael, donc moi, comme tu l'as indiqué, je suis donc meilleur ouvrier de France glacier, membre de l'équipe champion du monde de pâtisserie, donc je suis dans le domaine de la glacerie et de la pâtisserie depuis maintenant 29 ans, donc ça fait ça date.
Ouais.
J'ai fait plein de choses auparavant, et notamment j'ai monté récemment, il y a 2 ans, la glacerie Paris, donc
ouais.
Glace artisanale française avec un concept vraiment et des produits vraiment très atypiques et très originaux.
Ouais.
Et puis en parallèle, bien sûr, le projet La Mémère, dont on va évoquer
le
contour. Voilà.
Parfait. Arnaud, je vous laisse vous présenter, ou je te laisse te présenter si on peut te tutoyer.
Si vous voulez.
D'accord.
si vous voulez. Écoutez, moi je suis entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé Bleu Blanc Ruche. C'est une marque équitable dans le domaine apicole. L'apiculture est un secteur effondré. Donc moi, ça m'intéresse d'essayer de remonter quelque chose qui est abîmé.
Redresser.
C'est le redressement productif en acte, on va
exactement.
Dire, ça, comme ça, parce que c'était finalement un engagement politique, ça peut être un engagement entrepreneurial. Finalement, notre vie n'est qu'une ligne de vie une et indivisible.
Ouais.
Ce qu'on a fait avant, ce qu'on a fait pendant, ce qu'on fait après, ça se ressemble toujours un peu. C'est un peu comme David, qui lui a un parcours dans la pâtisserie. Moi, j'ai un parcours dans la reconstruction économique, finalement, depuis très longtemps.
Mmh.
Et Bleu Blanc Ruche est une marque équitable qui a pour but de partager la valeur avec les apiculteurs et en contrepartie de faire participer l'apiculture au repeuplement en abeilles dans notre pays, puisque nous manquons cruellement d'insectes pollinisateurs.
Mmh.
Après, j'ai créé la compagnie des amandes sur un modèle qui est le modèle prémonitoire de la Mémère, c'est-à-dire qu'en fait, on a observé qu'il y avait plus d'amandes en France, mais que les Français en consommaient 40 000 tonnes.
Quand même.
On en produit même pas presque 800, à peine 800 tonnes, 1000 tonnes maximum.
Ouais. Mmh.
Et donc, tout le reste est importé de Californie, essentiellement à 80%. Donc, ce que nous allons donner, faire des chèques à Monsieur Trump. On s'est dit non, on est capable de produire des amandiers dans notre pays.
Ça pousse en France, dans le sud.
Mais en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers en Provence.
Ah ouais.
Il n'y a plus rien, on a mis de la vigne généralement, et aujourd'hui, on a arraché la vigne, et qu'est-ce qu'on a mis à la place? Pas grand-chose.
Ouais.
Et vous avez une déprise agricole, une défaisance, on dirait, c'est-à-dire en fait, les sols sont inemployés. On parle des friches industrielles, je pourrais vous parler des friches agricoles.
Ouais.
Et donc, on a décidé de lever de l'argent pour... planter 2000 hectares d'amandiers dans notre pays pour relancer la production d'amandiers en France avec l'utilisation de toute la mémoire variétale française des grandes variétés d'amandes françaises qui sont conservées par l'INRA. Et l'INRA est associé dans la compagnie des amandes, avec qui nous avons fait un transfert de technologie sur la question de l'amandier et la sélection génétique historique de l'amandiculture. Alors, c'est un projet qui a pour modèle, non pas d'acheter de la terre, nous ne sommes pas des Chinois prédateurs, nous sommes respectueux de la propriété foncière agricole. Et donc, notre objectif a été de bâtir, en quelque sorte, une alliance avec l'amandiculteur, l'arboriculteur, l'agriculteur, en disant, ben voilà, on investit chez vous, et vous, vous apportez votre travail pendant toutes ces années, on partage la récolte, et toute la valeur est située dans l'exploitation agricole. C'est-à-dire que tous les éléments d'aval, de transformation, la casserie, etc., on le fait à prix coûtant pour pouvoir remonter la valeur à l'endroit précis où on est associé à 51 pour lui, 49 pour nous.
Et où déjà on partage ce modèle, d'accord.
Et on partage les bénéfices. D'accord. Et le modèle juridico-économique que nous avons conçu en compagnie des amandes, c'est ce qui a amené un jour notre associé à venir créer avec David Vesmael la MMR.
C'est-à-dire j'ai juste une question avant
on a
ça.
Construit la MMR sur le modèle de la compagnie des amandes.
J'ai juste une question avant ça, puisqu'on est dans les sujets personnels. On a cette question rituelle dans le podcast qui est pourquoi la bouffe ? Et alors du coup, je vais commencer par toi, Arnaud. Pourquoi la bouffe ? Parce que du coup, ces nouveaux projets après la politique, ils sont essentiellement dans la bouffe.
Bah, parce miel, que moi, j'en ai assez de mal manger,
ouais.
À titre personnel, de mal manger. De voir que finalement on pourrait manger à peu près pour un prix semblable avec une très bonne qualité. Puis j'en ai marre que la France ait piétiné sa fonction nourricière. La fonction nourricière d'une société est fondamentale et on l'a abandonnée. La crise morale, désespoir du monde agricole, la destruction capitale de valeur dans le monde agricole, ces vagues de suicides qu'on a connues, qui d'ailleurs ont été très bien mises en scène par Guillaume Canet dans le film Au nom de la terre. Tout ça, ça m'a toujours bouleversé. D'ailleurs, j'ai toujours été un élu rural. Ouais. Et je me souviens, il y a 20 ans, j'étais jeune député, j'allais dans les assemblées de la FNSEA où je me faisais huer parce que j'étais de gauche. Et les types me huaient parce que je leur disais bientôt il y aura un plan de sidérurgie, ça concernera l'agriculture. Ils me disaient, c'est une honte de parler comme ça de nous. Je dis, mais je parle pas de vous comme ça. C'est ce qui va se passer. Et maintenant, comment on s'organise? Et finalement, c'est ce qui s'est passé. 20 ans après, moi, j'ai vu l'agriculture s'écrouler. Mmh. Et la France a des ressources considérables. Donc, il faut donc remettre de la richesse, rémunérer le travail, accepter de payer un peu plus cher son alimentation en contrepartie d'aliments, de produits sains, bons, et bien travaillés grâce à la main de l'artisan. La transformation ne peut plus être chimique, industrielle. Donc nous, quand on a fait la même ère avec David, qui est champion du monde de la pâtisserie, et maître meilleur ouvrier de France et maître glacier, on a dit on enlève tous les E, tous les additifs, toute la chimie, il n'y a que du naturel. Et on va vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et c'est extraordinaire. C'est une tuerie, cette glace. Regardez ce que les gens disent sur les réseaux sociaux.
Ah, c'est vrai.
On va revenir sur ça, mais justement, David, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la bouffe ou pourquoi la glace ? Comment tu es arrivé dans cet univers-là ?
Alors, pour deux raisons. Première raison, par hasard, parce que j'étais pas du tout prédestiné à être dans ce domaine-là.
Ça mérite d'être honnête.
À l'âge de 16 ans, je savais pas trop ce que j'allais faire, quel était un petit peu mon devenir au niveau des études. Et puis, par hasard, voilà, un stage en fin de troisième qui m'a permis de découvrir pendant une semaine ce domaine, ce métier. Et puis, je me suis dit, tiens, un métier à la fois intéressant, valorisant, où on a des responsabilités, où on crée des choses et on fait des choses de ses mains et on a aussi le retour direct du consommateur. Sûr. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et j'ai commencé dans ce domaine et tout de suite, ça m'a plu. Et là, pour le coup, j'ai été très valorisé aussi par ce métier parce que quand ça se passe bien, automatiquement, c'est beaucoup plus valorisant que dans un cursus traditionnel éducatif où on est dans la moyenne générale, on va dire. et je voyais pas trop d'intérêt. Et puis après, deuxième chose, par passion. Parce que on fait pas ces métiers aussi longtemps, je disais, ça fait 29 ans, si on n'a pas la passion. En fait, on est vraiment dans un métier de passion parce que c'est un métier exigeant, un métier enrichissant, valorisant, extrêmement intéressant au quotidien, où on rencontre des gens, où on se valorise, où on voit aussi, on rencontre énormément de gens, des producteurs, des gens de tout domaine, comme Arnaud. Voilà, c'est ça aussi qui est extrêmement passionnant, parce que chaque journée est différente, alors qu'on est toujours dans une notion de fabrication de produits. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui fait que ces métiers sont des métiers de passion.
Et si on revient donc du coup à Mémère, qui est le sujet d'aujourd'hui, comment vous avez eu l'idée? Quels étaient les déclics? Donc tu nous parlais déjà des amendes, de cette démarche-là qui était peut-être un début pour ce que vous avez construit avec la Mémère. Quels étaient les moments où vous avez dit bah ça y est, on va lancer cette marque-là, on va se lancer dans la glace?
Ben en fait, le modèle de la compagnie des amendes, qui est une alliance capital-travail, c'est-à-dire qu'il y a un financier que nous levons des financements. Et nous investissons dans ce que les agriculteurs ne peuvent pas financer parce que c'est trop élevé, les montants sont trop élevés,
du matériel,
le
du
niveau
foncier.
De la dette est trop élevé, et donc l'agriculteur peut pas le faire. Et nous assumons le débouché commercial, donc c'est une forme de coopérative avec du capital et du leadership. En fait, on fédère des agriculteurs autour d'un projet de production où on partage le bénéfice technique de notre alliance, on réduit les coûts d'accès au marché parce que on a, j'allais dire, processualisé la fabrication, on l'a optimisé. On a des débouchés commerciaux globaux plus importants, donc on peut vendre plus facilement. Et puis tout le matériel, on peut en réduire les coûts puisqu'on a un pouvoir de négociation, on a les moyens de négocier.
Bien sûr.
Donc accès à la technique et la technologie. Accès au matériel agricole de transformation et de fabrication, accès aux débouchés commerciaux, donc fédérés dans la mandiculture, c'est 80 vergers de 25 hectares, voilà à peu près. Là, on espère fédérer en 3 ans 15 fermes de transformation du lait en glace à la ferme. Donc à chaque fois, c'est 300 000 euros d'investissement en containers, parce qu'on installe des sorbetières et des turbines qui sont dans les containers, qu'on fait équiper par avance et qu'on finance. Donc c'est une alliance capital-travail. Pourquoi? Parce que nous, on va chercher des investisseurs, on va chercher des agriculteurs et on les fait travailler ensemble. On protège l'agriculteur contre les excès de l'investisseur, ces excès de gourmandise, d'impatience. Vous savez, le financier veut toujours de l'argent, ça s'intéresse pas du tout à l'humain. Ben nous, on dit à l'investisseur, stop. Et en même temps, on protège l'investisseur contre les risques liés à l'agriculteur. Il part en vacances, il revient pas, il est pas fiable, il rembourse pas finalement ce qu'on lui a prêté, etc., etc. Et tout ça fait que on a une sorte d'alliance qui fonctionne équilibrée entre d'un côté l'investisseur, de l'autre côté l'agriculteur. Et cette alliance capital-travail, nous en sommes, nous, les garants.
Et ça, c'était le modèle avec les amendes.
Mais c'est le même.
Et c'est aussi le même modèle que tu as dupliqué, du coup, sur les glaces.
C'est exactement le même. Par exemple, donc, la compagnie des glaces que nous avons fondée, David Mesmaël, moi-même, Stéphane Sauter, Maxime Deleplace, nous sommes 4 associés.
Je veux bien qu'on revienne d'ailleurs sur les profils des 4 associés.
Mais c'est intéressant. Donc, c'est les 4 associés qui ont fondé la compagnie des glaces. Nous levons de l'argent. Voilà. Nous finançons les installations au meilleur coût, au meilleur prix. L'agriculteur n'a pas à avancer d'argent ni à s'endetter, donc son exploitation laitière est protégée. Cette société que nous fondons avec lui, où lui est majoritaire, il est son propre patron et nous minoritaires, nous finançons en compte courant. Lui, il a l'avantage de ne mettre que 5000 euros dans le capital, donc c'est le niveau de son risque. Et cette société garantit l'achat du lait pendant 5 ans à hauteur de 80 centimes le litre.
Un prix
qui est fixé par contrat fixe.
Qui est
supérieur. Je veux juste vous donner les tarifs de marché.
Ouais, voilà, c'est ça.
Le lait conventionnel, c'est 36 centimes. Le lait bio, c'est 46 centimes.
Et vous
et nous, 80. C'est 80 centimes. 67% de plus que le marché.
Et donc, ce qui permet, et c'est un vrai sujet,
c'est
aux producteurs de vivre.
C'est une triple rémunération pour l'agriculteur qui travaille. Et la première, c'est le prix du lait auquel on l'achète ensemble à son GAEC ou à son exploitation agricole. C'est le premier revenu. Deuxième revenu, c'est les emplois qu'on va créer. Il y en a forcément un dans la famille qui est un emploi un peu plus au-dessus du SMIC. Puis le troisième, C'est qu'on gagne tout de suite l'argent, il n'y a pas de glace produite qui ne soit pas vendue. Mmh. Ça n'existe pas. Donc en fait, toute glace vendue permet à la société qu'on a fondée avec lui, lui 51%, nous 49%, ben on partage les résultats ensemble. Mmh. Voilà. Ça fait trois revenus.
Ouais.
Bah, c'est une marque équitable. Voilà. Et on remplace l'industrie de la glace par une succession d'ateliers décentralisés dans la campagne française. Et évidemment, on vend en vente locale. Donc, la famille Morin qui a créé
sa première ferme.
Mmh. qui est à près de Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Mmh. Tous les samedis, il y a de la vente à la ferme. Et ils font un chiffre d'affaires très important par semaine. Plus les supermarchés locaux, les épiceries locales. Ouais. Et nous, on assume la vente au niveau national et international.
Avec les grandes enseignes. Ouais.
Bah, c'est un très beau projet. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on voulait comprendre les coulisses du projet. Donc, on va revenir dans les détails sur la partie organisation, les producteurs, etc. Mais avant de parler de ça, on aimerait juste... Tu as fait référence à l'industrie de la glace. Donc, juste pour qu'on se situe bien dans cette industrie-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur cette industrie-là? Quelle est la taille de cette industrie? Qui sont les acteurs principaux? Qui sont vos concurrents, finalement, dans cette industrie?
En fait, l'industrie de la glace représente plusieurs milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires par an. C'est un gros business qui est un peu cadenassé et trusté par les industriels aujourd'hui sur de la vente en vrac, donc en grande surface. Et après, des petits acteurs artisanaux locaux, donc qu'on voit dans les stations balnéaires, qu'on voit en ville. Et eux ont une toute petite part du marché. Ouais. Voilà.
Les gros, c'est Unilever, Nestlé.
C'est ça. Qui sont vraiment en créneau et qui inondent le marché avec tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire les inconvénients, les ingrédients, les additifs, tout ce que ça comporte en termes d'industrialisation et aussi cette démarche purement industrielle qui est pas du tout la nôtre et qu'on ne voulait pas du tout valoriser. Et donc du coup, là sur le marché de la glace, ça et le projet de la MMR part aussi d'un constat de se dire aujourd'hui il n'y a aucune solution, aucune production directe et locale à la ferme, tout au moins encadrée correctement avec ce cercle vertueux qu'Arnaud a évoqué et ce partage en fait des compétences et ce partage des savoir-faire et aussi cette démarche vraiment de valoriser ce travail, cette matière première, ces savoir-faire et que ce soit gagnant-gagnant. Mmh. Et donc fort de ce constat-là, le hasard fait que on s'est rencontrés à ce moment-là et que nos visions étaient communes pour pouvoir porter ce projet-là lui faire voir le jour autour d'une démarche vraiment uniquement d'abord production et artisanale avec tout le contraire de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Donc, au niveau des industriels, par rapport à la fabrication, par rapport au choix des ingrédients, par rapport à toute cette démarche qui est vraiment mercantile et que nous, on voulait vraiment sortir de ce projet. Voilà un petit peu la différence notable entre...
On a compris la dimension éthique, et ça, à la limite, on y reviendra un peu plus en détail, mais sur la partie produit, sur quelles sont les dérives des produits industriels dans la glace?
Les dérives sont déjà le choix des ingrédients. Ouais. Donc, il y a la traçabilité, elle n'est pas mise en avant parce que aujourd'hui, compte tenu des volumes qui sont fabriqués sur des industriels, ils vont prendre le minerai ou la matière première là où elle se trouve. Donc il n'y a pas de traçabilité là-dessus. Ensuite, les autres ingrédients vont tourner autour de la recette, autour de l'équilibrage de cette recette pour avoir une notion à la fois technique, mais aussi surtout économique.
Rendement.
Donc du coup, on va utiliser des ingrédients qui sont naturel du tout, avec des process qui sont industrialisés et avec un ajout d'air dans la glace qui va permettre de réduire en fait de façon faciale, on va dire, le coût de la glace. Sauf que si on ramène ça au prix au kilo, c'est ça qui est en fait le déterminant. Et aujourd'hui, légalement, on est obligé d'afficher le prix au kilo des glaces. Ouais. Et c'est une bonne chose parce que ça met la différence justement entre les industriels et les artisans qui mettent de l'air impunément dans leur fabrication, ce qui permet d'avoir plus de volume, mais de mettre moins de produits.
Voilà. Ça, je ne savais pas. Donc en fait, dans la fabrication industrielle de la glace, on va rajouter de l'air pour que ce soit un produit plus aéré, mais du coup,
c'est ça.
Moins coûteux.
C'est ça.
trouve ça intéressant.
Et je découvrais en préparant le podcast une autre dérive des industriels, c'est que finalement, même tous ces grands groupes aujourd'hui produisent même plus en France. Aujourd'hui, il n'y a plus de production, il n'y a plus de producteurs de glace de grande taille en France, à part l'artisanat.
Si on reprend la question de l'industrie de la glace, aujourd'hui, le marché de la glace, comme le disait David, c'est 1 milliard d'euros et à 70% environ, Nestlé, Unilever, General Mills. Ouais. Voilà, bon. Qui fabrique en dehors de Häagen-Dazs à Arras, c'est la seule usine de glace industrielle en France. Tout le reste est importé. Donc ça vient d'Angleterre, ça vient d'Allemagne, ça vient de Hollande, ça vient d'Italie. Même Grom, qui est une marque qui semble artisanale,
bien sûr.
Tout ça, c'est groupes. Donc notre choix a été de dire, vous allez redécouvrir ce qu'il y a dans la glace. Il y a un travail pédagogique vis-à-vis du consommateur en disant, dans la glace, nous, l'agent texturant, il n'est pas chimique. Mmh. Les fruits, ils ne sont pas traités chimiquement, ils sont bio 100%, ouais. Et ils sont issus de certifiés issus d'exploitation de l'agriculture biologique. Et le lait est lui aussi issu de l'agriculture biologique, puisque nous n'allons que dans des fermes qui produisent du lait bio, généralement pour les grandes coopératives biologiques.
Et qui fait aucun trajet, parce qu'il est à côté, en fait. Les vaches
il ne fait aucun trajet.
Voilà.
Il ne fait aucun trajet. Donc, en fait, ce choix-là, ce choix technique, et ça serait bien que David nous donne les détails sur sur les choix de texturant naturel et la façon dont il a conçu la recette, lui, parce que lui, c'est un grand pâtissier, sa modestie l'empêche de le dire, mais moi, je peux le dire, c'est un grand pâtissier, un grand glacier, il faut voir les glaces qu'on mange dans sa glacerie, à la glacerie de Paris. Donc, en fait, on a décidé et on forme les agriculteurs à fabriquer de la glace selon les recettes du meilleur ouvrier de France. Donc en fait, les Français qui achètent la même mère, ils ont du meilleur ouvrier de France, artisanal, avec des produits 100% bio, sans aucune dérogation à cette loi qu'on s'est fixée, et une glace exceptionnelle. Et par la texture, et par le goût, et par les ingrédients, la naturalité. Et c'est pour ça qu'on a un très bon score chez Yuka.
Ouais, ça en est
à venir. Justement, on avait une question par rapport à ça. C'est que, est-ce que Yuka, ça a été pris en compte lors du développement produit? Est-ce que c'était un objectif d'avoir un bon score sur Yuka ou sur un développement produit qui a été à part?
J'allais dire que ça a été la cerise sur le gâteau. Mais au départ, le cahier des charges était vraiment de partir de la matière première essentielle, c'est-à-dire le lait bio et par extension, la crème bio qui est fabriquée directement sur l'exploitation.
Oui. J'ai une petite question là en parenthèse. Quelle est la quantité de lait dans une bonne glace pour faire un litre
à peu près à 60%.
Donc la matière première, 60%, c'est du lait.
Voilà. Donc, matière première principale. La crème vient en deuxième, et ensuite les ingrédients, un peu de sucre, et on y reviendra, je vais expliquer en détail
les ingrédients. En général, Yuka aime pas trop quand il y a trop de sucre.
Il en faut un minimum, parce que, par définition, c'est pas gourmand. Et puis, il y a une question aussi d'équilibre et de texture. C'est-à-dire que le travail et le métier du glacier, c'est justement d'équilibrer ces matières premières, de calculer, en fait, les recettes et de les établir pour avoir à la fois un goût, une texture, une couleur, et avoir vraiment tous ces paramètres qui sont pris en compte pour l'équilibre et la création d'une recette qui va aussi être, bien sûr, très bonne, mais aussi se conserver dans le temps. Et là, c'est l'objectif aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire une très bonne glace de façon instantanée, même à la maison. Mais après, nous, on est dans une démarche aussi où il faut qu'on puisse fabriquer et proposer un produit qualitatif pendant plusieurs mois pour nos clients et nos consommateurs.
Et comment tu fais justement? Parce que tu mets des agents texturants, les industriels doivent mettre des E, comme disait Arnaud tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu mets
On part de la matière première, le lait, la crème bio directement sur l'exploitation. Ensuite, on va utiliser du sucre bio.
Ouais.
D'accord. Et simplement, ensuite, des agents texturants qui sont issus d'algues ou de végétaux, de racines bio. Totalement naturel aussi, pour supprimer totalement ces E qu'on ne voulait pas dans la recette, dans l'équilibre de la recette et aussi dans l'étiquetage. Et donc, ça a été un travail déjà de sélection de matières premières, de tests et d'équilibrage des recettes pour qu'on arrive à ce résultat en termes de traçabilité, en termes de vision aussi des ingrédients qu'il y avait à l'intérieur des glaces, mais aussi en termes de qualité produit.
Ouais, et une question, parce que tu vas travailler à chaque fois avec des fermes différentes. différentes, des producteurs différents, donc avec des laits qui sont différents. Oui. Est-ce qu'on doit adapter la recette pour chaque type de lait, pour chaque producteur, ou la recette, elle marche systématiquement avec n'importe quel?
Alors, la recette, elle va fonctionner pour tout type de lait et tous les producteurs. Maintenant, ce qui va donner, c'est la particularité aussi de chaque lait.
On aura
c'est-à-dire
des goûts différents.
On aura une petite variation, mais qui va donner cette qualité et justement ce qu'on recherche, c'est-à-dire cette qualité intrinsèque du lait ou de la crème, qui va aussi varier aussi en fonction de la saisonnalité. Parce que les vaches ne produisent pas le même lait en fonction des saisons.
C'est le charme de nos glaces la même.
Bah, bien sûr.
Donc, en fait, c'est qu'elles ont un contenu lactique qu'on ressent et qui est un charme absolu.
Ouais. Et il y a presque une notion.
Pardon,
de...
David.
Il y a bien sûr.
Je me permets. Là, c'est le consommateur de glace.
Mais ce qui est aussi sympa, c'est qu'aujourd'hui vous travaillez avec un producteur qui est en Normandie, mais demain vous travaillez avec un producteur dans les sud de la France qui travaille avec une autre race des vaches, et on va avoir une glace mémère qui aura un goût différent de celle vendue en Normandie. Et ça, c'est fantastique, je trouve. C'est un produit vivant, en fait.
C'est un produit vivant. Alors après, la base sera là, quand même. La saveur, la recette, les ingrédients qu'on a choisis, le chocolat, la vanille, le café, bien sûr, seront vraiment communs. Mm-hmm. Mais il y aura ce petit plus qui va venir de la nourriture des vaches, qui va venir aussi du terroir et de la saison. Donc ça, c'est vraiment la particularité aussi de la glace MMR. C'est qu'à la fois, on a donc pas standardisé, mais on a normé aussi les recettes, mais on laisse aussi la place à la spécificité, à la nature, qui va, nous donner et dévoiler aussi tout son savoir-faire de l'éleveur, et puis aussi toute la qualité aussi naturelle.
Sûr. Et ça, c'est visible pour le consommateur. Par exemple, est-ce que sur le packaging, on voit l'identité du producteur?
Oui. Et sur les dos du packaging.
Du coup, du terroir. Du terroir.
Vous avez là, nous avons avec Patricia et Nicolas Morin, il y a la photo de la famille avec leur vache, leur mémère. C'est un peu ça, hein. Ouais. C'est l'esprit, et puis qui raconte l'histoire du Gaët, comment ils ont créé ça, pourquoi, comment, et leurs traditions. C'est une famille qui est dans le bio depuis très longtemps, qui a produit du lait pour le beurre Bordier, qui a décidé de venir avec nous. Et c'est eux qui ont été candidats, qui nous ont téléphoné pour nous demander. D'essayer, et on s'est laissé évidemment mutuellement séduire. Ouais.
On va parler, on garde les producteurs parce qu'on a plein de questions par rapport à ça. On est allé sur les produits, donc on veut juste finir de comprendre en fait les typicités. Moi, ce que je trouve génial de la démarche, même d'un point de vue marketing, on parle pas des marketing là tout de suite, mais moi en tant que consommateur, je serais très curieux de goûter votre glace en Normandie et la glace que vous allez faire à côté de Toulouse, parce que ça crée des espèces d'appellations mémères.
Et en Savoie, moi je suis savoyard, je sais que les races savoyardes font un lait particulier. Il y a certainement des glaces la mémère avec des races savoyardes de montagne, on rend forcément un goût un peu plus particulier.
Mais c'est aussi le charme de cette glace de la mémère, c'est que même si on se dit c'est la mémère, mais d'un producteur à l'autre, on va pouvoir aussi découvrir aussi des choses particulières.
Ça, c'est hyper.
Alors après, il faut être un petit peu érudit quand même et avoir un palais aussi aguerri, parce que on n'est pas du simple au double, hein, en termes de saveur, mais on va avoir des petites particularités qui vont pouvoir ressortir effectivement en fonction.
On va pouvoir lancer des AOP de glace, en effet.
Et justement, David, tu as l'expérience donc d'avoir la glacerie des Paris. On suppose que les méthodes des productions et les recettes, elles sont pas identiques, parce qu'un produit comme la mémère, il est distribué dans les supermarchés, il a peut-être une durée de vie qui est peut-être plus longue. Quelle est la différence des recettes entre une glace artisanale et...
Mais justement, il n'y en a pas. On a construit le projet autour d'une production artisanale, telle que moi je peux la faire au niveau de la glacerie Paris, sur une production artisanale classique, avec cette démarche de la matière première jusqu'au produit fini. On est sur le même process et on a aussi mis les choses en place structurellement, directement sur l'exploitation, avec du matériel adapté, du matériel artisanal et un process artisanal qui permet à la fois de gérer ses productions de façon continue, c'est-à-dire que toutes les semaines avec la production de lait et de crème directement sur l'exploitation, d'avoir une régularité, mais aussi de rester dans des normes et dans des quantités de production qui soient artisanales et qui confèrent aussi à la glace cette particularité artisanale. On parlait tout à l'heure du taux de foisonnement qui est extrêmement important, parce que le process artisanal va justement donner cette particularité et cette texture qui est propre à la glace MMR, mais qui est aussi propre à une glace artisanale.
Donc, en dehors du packaging et de son format, c'est quasiment les mêmes glaces que ce que tu vends, toi, dans tes glaceries.
Alors, sauf que moi, la matière première est différente parce que j'utilise le lait et la crème d'un éleveur des Hauts-de-France.
Bien sûr.
Et puis après, d'autres types d'ingrédients parce que notre gamme est beaucoup plus large. Donc, on est sur le même process avec des recettes, bien sûr, qui sont spécifiques aussi à notre enseigne, à la Glacerie Paris, et une gamme qui est dédiée aussi à la même mère.
Et juste pour finir sur les ingrédients, on a parlé tout à l'heure des agents de texture, sur les fruits, sur tout ça, quel est le cahier des charges? Il y a un engagement, donc on dit que c'était bio, mais quel est le cahier des charges pour
la
vanille? Elle vient d'où? Bon, la vanille de France, c'est compliqué.
Il y en a à La Réunion.
Ouais, voilà.
D'accord. Mmh. Donc, on est en train de travailler encore pour développer aussi nos partenariats avec les producteurs français pour avoir encore plus de possibilités de sourcing pour aussi les futures saveurs qu'on va développer parce que va falloir élargir la gamme aussi en termes de saveurs.
Aujourd'hui, il y a vanille, chocolat, fraise, framboise, c'est ça?
C'est ça. Et café.
Et café. Ok. Voilà.
Donc, une gamme courte, mais qui correspond quand même à une consommation quand même assez large. Et le but, c'est de construire aussi des partenariats avec d'autres producteurs. Et pour les fruits, ça a été aussi de sélectionner des producteurs français avec des fruits bio et qui étaient aussi traités directement sur l'exploitation pour justement là fabriquer et avoir du fruit directement de très bonne qualité et qui allait nous permettre aussi de pouvoir l'utiliser dans la glace, dans la glace framboise et dans la glace à la fraise.
Bien sûr. Et on parle donc des éleveurs avec qui vous travaillez. On souhaiterait donc revenir sur cette partie-là parce que c'est la partie qui nous semble vraiment la plus intéressante parce qu'il y a une démarche qui est quand même unique. Avant de parler des producteurs avec des éleveurs avec qui vous travaillez, on aimerait peut-être que vous reveniez un peu sur la situation des éleveurs de lait en général en France parce qu'on sait que c'est une situation qui est pas facile pour tout le monde. Donc, si vous pouvez nous donner un peu votre point de vue par rapport à leur situation et les rôles que la MMR pourrait jouer là-dedans.
Vous savez que aujourd'hui l'élevage laitier est en difficulté depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas d'ailleurs d'évolution très favorable du marché. On reste sur des niveaux de sous-rémunération du travail de l'éleveur laitier. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe dans la filière de la viande, c'est pas mieux. Ouais. Hein, ce sont des rémunérations qui existaient déjà il y a 35 ans. Donc vous avez aujourd'hui une sorte de d'incapacité de l'agriculture à obtenir une bonne rémunération, ouais, pour le travail accompli. Et c'est un travail.
Des producteurs qui se payent même pas le SMIC, voire le tiers du SMIC en moyenne.
Je ne vais pas faire de misérabilisme, mais tout le monde a compris que vous avez un appauvrissement de ceux qui travaillent dur pour vivre dans l'agriculture. Donc c'est pas acceptable. Alors vous avez eu une première réaction des consommateurs avec les marques équitables qui ont commencé à apparaître. C'est le cas de C'est qui le patron,
Nicolas
qui a
Chabin,
fait un effort de quelques centimes. Après vous avez une autre marque qui s'appelle équitable, qui s'appelle Fair France, qui a là aussi décidé d'aller au-delà. Là ils sont beaucoup plus haut. À 50 pour le lait bio, on est au-dessus de 50 centimes. Et nous, on a décidé de frapper un grand coup en disant, mais pourquoi nous ne pourrions pas imaginer une stratégie de transformation de la matière première à la ferme dans laquelle, finalement, il y a du travail. C'est un autre travail. Vous comprenez, quand vous êtes agriculteur, vous travaillez avec la nature, les éléments, les imprévus. Il y a des week-ends où vous travaillez et puis des jours de semaine où vous ne pouvez pas parce qu'il tombe des cordes. Et en revanche, là, quand vous avez un atelier de fabrication de glace, c'est 35 heures. C'est un process qui est rationnel, où le travail est bien réparti, les tâches sont précisées par avance. Il y a des règles liées à la sécurité de l'hygiène et sanitaire. Et donc, tout ça, c'est un autre métier dont il faut faire l'apprentissage. Ça demande une révolution personnelle, humaine, de la part d'une famille qui décide de faire autrement. Mais c'est l'avenir de l'agriculture.
Pour valoriser leurs produits. Parce que le lait, il vaut mieux le transformer soi-même.
Mieux vaut le transformer soi-même plutôt que le vendre.
Garder la valeur.
Le vendre à perte.
Ouais, bien sûr.
C'est une évidence. Mais ça, c'est un effort d'investissement humain, en formation, en révolution individuelle, dans la tête, dans la vie.
Ouais.
C'est une révolution dans l'organisation de la vie, de l'exploitation, de la famille. Puis c'est une révolution technique aussi, parce qu'il faut faire un apprentissage dans la transformation. Et donc, en fait, le meilleur ouvrier de France, qui est David Vesmael, fait des meilleurs ouvriers de France, qui sont des paysans. Quoi. Ouais. C'est l'alliance des paysans et des ouvriers.
Ils apprennent un nouveau métier.
Souvent, la même ère, c'est les paysans et les ouvriers ensemble. Ouais. Voilà.
C'est, on avait eu un invité dans ces podcasts qui est le fondateur de la plateforme des financements participatifs Mimosa, et lui il disait sa vision de l'agriculteur d'aujourd'hui et des demain, qu'il est un entrepreneur multicasquette en fait, parce qu'il va faire à la fois de l'élevage des vaches pour produire du lait, ensuite
faire de la vente,
il va
direct,
transformer
la transformation
en direct, et il va les vendre en direct aussi aux consommateurs, il va développer une clientèle, il va gérer des réseaux sociaux, et finalement il fait plein d'activités pour pouvoir valoriser les produits de sa ferme correctement. Et ce que vous apportez, c'est une couche supplémentaire où vous permettez à ces agriculteurs de transformer sur place les laits qu'ils produisent. Ça, c'est génial.
Oui, et surtout aussi, faire des choses, c'est bien, mais les faire bien aussi, c'est autre chose.
Bien sûr.
C'est-à-dire que se développer, élargir sa gamme, développer son activité, oui, c'est une chose. Après, ce qu'on a aussi fait avec, et ce qu'on fait avec la MMR, c'est qu'on apporte bien sûr toute la partie capitalistique, structurelle, dont Arnaud a parlé, mais après, toute la partie technique. C'est-à-dire que, comme Arnaud le disait, sur la partie technique, faire de la glace, c'est des notions de fabrication, d'hygiène, que voilà, c'est tout un process et une formation qu'un pâtissier, un glacier va avoir, parce que naturellement, il fait des études pour ça, qu'un agriculteur ou qu'un éleveur n'a pas forcément de base. Donc, du coup, c'est une formation et une démarche qu'il faut inculquer, et parce qu'on est aussi garant de la qualité, de la sécurité alimentaire aussi du produit. Donc, ça fait partie aussi d'une démarche globale. C'est du temps, c'est de l'investissement, c'est un accompagnement. On a justement structuré les choses pour que, en termes de matériel, d'infrastructure, les choses soient normées, duplicable pour nos futurs partenaires éleveurs. Et puis, sur le process de fabrication, il y a une formation qui est faite directement donc dans mes laboratoires. Et également, bien sûr, sur l'exploitation, quand le matériel est installé, quand toute la démarche est en place, pour accompagner, former et monter en production avec l'éleveur. Et puis après, bien sûr, l'accompagnement ponctuel pour rectifier, pour voilà, pour toujours des piqûres de rappel qui vont permettre d'avoir, de garder ce lien et de pas lâcher totalement l'exploitant dans cette démarche qui est complexe au quotidien. Parce que la difficulté de nos métiers, hein, en glacerie comme en pâtisserie, c'est la régularité. Ouais. La régularité, ça, c'est ce qui est le plus dur. Alors, on parlait au niveau des ingrédients, on peut avoir de l'irrégularité dans certains types d'ingrédients, hein, en fonction de la saisonnalité. Mais, justement, dans la fabrication, il ne faut pas d'irrégularité. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir avoir une reproduction au quotidien de cette fabrication dans les meilleures conditions possibles.
Mais j'aimerais revenir en détail dans vos services que vous proposez aux producteurs, même si on a déjà un petit peu évoqué. Mais faisons l'exercice au hasard. On se met à la place d'un producteur
vous
en Savoie.
Vous êtes agriculteur.
Voilà, je suis
Savoyard.
Agriculteur en Savoie, j'ai 50 vaches.
Non, vous avez 70 vaches.
Si vous voulez.
Vous faites 500 000 litres. Ouais. Voilà.
Et je te vois bien d'ailleurs.
Ouais, c'est clair, j'ai longuement hésité.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous me proposez comme service? Voilà, je réfléchis.
Non,
je
c'est pas des, on ne propose vends... pas des services. Ouais. D'abord, on propose de s'associer pour 10 ans. Vous savez ce que c'est que s'associer pour 10 ans? C'est autre chose. Ouais, l'agriculteur, c'est... il est dans tout seul et il veut personne dans sa ferme. Bah là, on va s'associer, non pas sur son exploitation agricole qui reste à l'écart, mais sur une activité nouvelle.
Créer une activité ensemble.
On s'associe. Ouais. Donc, pour s'associer, il faut déjà, un, se connaître, se reconnaître,
partager
s'apprécier,
les mêmes valeurs,
avoir le même discours, les mêmes convictions. Bref, il y a tout un travail initiatique. Donc, déjà, on se voit. Donc, moi, j'ai pris ma voiture avec Stéphane, nos associés, qui est le directeur général de la compagnie. J'en suis le président. Et on va à la rencontre d'éleveurs qui ont candidaté.
Ouais.
Et donc, on va discuter, on prend du temps, on passe la journée, on mange, on voit la famille, on discute, on réfléchit, on voit les problèmes, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils veulent, ce que nous, on a dans la tête, ils veulent le voir. Déjà. Après, si on s'associe, c'est pour faire quoi?
Voilà.
Bon, eh ben, pour un, apprendre un métier. Deux, gagner notre vie correctement, eux et nous.
Bien sûr.
Et trois, que notre investissement que nous, on va faire, ne soit pas vain. C'est-à-dire qu'on puisse avoir confiance dans le sérieux de l'agriculteur et l'organisation familiale, qui généralement est très impactée par l'arrivée d'une activité comme celle-là. Mmh. S'ils sont deux sur la ferme, hop, il y en a un qui va, un couple généralement, jeune couple, ou un papa, un fils ou une fille, ou trois cousins, ou deux frères et un cousin, bref, il y a souvent ça. Et donc, qui va s'en occuper? C'est le seul. Et qui a envie de le faire? C'est des sujets humains, d'abord. Et après, combien on doit investir? Je dis, vous investissez 5000 euros, nous 5000 euros pour constituer la société. C'est le seul risque que prend.
Donc c'est 5000 euros l'investissement.
L'investissement pour l'agriculteur, c'est 5000 euros. Pour nous, c'est 300 000.
Oui, parce que le matériel coûte 300 000 euros.
Vous imaginez que si nous, on avait dit, bon, on monte une société, nous on met 300 000 et vous 5 000, ça veut dire qu'on transforme l'agriculteur en notre employé, ce qu'on ne veut pas. Donc, on construit une relation de confiance où on apporte l'argent en compte courant et les bénéfices de la société, parce qu'on aura bien travaillé, vont permettre de rembourser dès que la trésorerie est excédentaire. Et je dis souvent, nous, on n'est pas une banque. On n'est pas une banque, d'abord. Pourquoi la différence? Une banque, c'est quoi? Vous vous endettez et vous remboursez, même si vous ne gagnez pas d'argent. Tandis que là, on rembourse quand on décide de le faire et exclusivement quand on gagne de l'argent ensemble, sinon on ne rembourse pas. Donc, ils savent qu'il y a une protection de leurs intérêts.
Bien sûr. Tous les agriculteurs qui vont vous appeler là.
Mais il y en a beaucoup qui nous appellent. Ouais, ils sont protégés dans leur exploitation agricole parce que l'exploitation agricole ne doit pas être impactée par. Elle ne doit pas être. Imaginons, ça marche pas, on fait faillite. Et il faut pas que l'exploitation agricole soit touchée.
Bien sûr.
Donc on les protège.
C'est juste la nouvelle activité qui fonctionnera pas. Mais il y a pas de danger.
Ils auront perdu 5000 euros, nous 300 000.
C'est vraiment
beaucoup pour nous. Donc on leur demande un certain nombre de garanties. Ouais. Voilà. Deuxièmement, quand on a vu l'organisation humaine, on dit qui va piloter ça? Il nous faut un responsable qui est un des chefs d'exploitation généralement. On demande soit un des chefs d'exploitation. On dit pas ça sera mon épouse, ce sera ma belle-sœur, ce sera un salarié que je vais embaucher. Non, c'est un des piliers de la ferme qui décide de s'y mettre. Ça c'est très important pour nous.
Opérationnel dans la ferme.
Ouais. Et qui va se former chez David.
D'accord.
C'est ce qui s'est passé avec Patricia. Ouais. Qui va se former avec soit son fils, soit un employé, etc. Et donc après, il y a une chaîne de.
Ils vont dans ton labo à
Première
Lille.
Première étape, c'est dans mon labo à Lille. Et donc, on les forme déjà. Parce que dans mon laboratoire, c'est un laboratoire aux normes européennes, donc voilà, 400 mètres carrés, donc qui permet déjà de comprendre aussi cette démarche de fabrication artisanale avec toutes les contraintes hygiéniques, les contraintes du process de fabrication. Donc déjà, ça met aussi les choses directement en perspective et surtout leur montrer que, effectivement, il va falloir apprendre un nouveau métier.
C'est une formation accélérée pour devenir maître glacier.
Une formation effectivement accélérée.
Elle dure combien de temps, cette formation?
Normalement, c'est quelques jours, 3-4 jours déjà au laboratoire. Et puis après, sur l'exploitation, on est plus sur 1 à 2 semaines pour pouvoir lancer la production, la monter en production pour pas les lâcher.
Et mettre en pratique.
Le but, c'est de les accompagner. C'est-à-dire que, comme Arnaud le disait, c'est gagnant-gagnant. Donc du coup, nous, la pérennité aussi de l'activité, de l'exploitation, de la fabrication est extrêmement importante, même primordiale. Donc, c'est pas on met en place et puis hop, on s'en va, débrouillez-vous. Il y a un accompagnement, il y a un suivi, parce que c'est l'objectif d'avoir cette régularité et d'avoir cette pérennité d'activité avec nos partenaires.
Donc en plus, vous financez le matériel, vous accompagnez l'installation du matériel. J'ai vu des visuels, le matériel, d'ailleurs, c'est un grand conteneur.
Est-ce qu'on pourrait parler peut-être plus du matériel? C'est quoi? Ce sont des containers? Qu'est-ce qu'il y a derrière de ces containers?
Nous amenons 5 containers.
D'accord.
3 qui sont accolés et qui constituent le laboratoire de production.
D'accord.
Donc c'est très facile à apporter, on les amène en camion, on les pose en grue, on n'a qu'un terrassement à faire.
Une journée s'est installée, on va dire, grosso modo.
Oui, à peu près, il y a quand même les branchements des eaux, du lait, de l'électricité, il y a tout ça, il y a le tank à lait qui doit être alimenté, etc. Donc, et puis le stockage, donc vous avez un surgélateur à moins 18.
Il y a un container qui fait
spécialement
chambre froide,
qui est le stockage chambre très froide.
Très froide,
voilà.
Négatif.
Et le reste est le laboratoire de production. Donc, ce sont des containers que nous faisons, que nous recyclons, usagés, à Dunkerque, et que nous faisons équiper. Et le matériel, d'ailleurs, nous avons veillé à ce que le matériel soit français.
C'est ça qui coûte à peu, enfin, c'est ça qui doit coûter
300 000 euros.
À peu près, plus les terrassements, parce qu'il faut que ce soit plat s'il y a un peu de relief, plus les plots d'amarrage, plus. Voilà. plus Enedis, il faut améliorer l'ampérage, plus un groupe électrogène si on est au bout.
Et là, vous les accompagnez dans tout ça, genre en effet la liaison avec eux, l'électricité, bien sûr.
C'est leur ferme.
On est associé. On est associé. Donc
c'est pas une relation commerciale, hein. C'est vraiment.
Il y a pas de relation commerciale. C'est une relation d'alliance, d'association.
Chacun a intérêt à ce que ça aille au bout dans les meilleures conditions.
C'est comme votre boîte, vous êtes associé entre amis et vous y croyez, vous la défendez ensemble, vous répartissez le travail. Bah c'est ce qu'on fait nous. Ouais.
C'est chouette. Et donc
ensuite, vas-y.
Ouais, donc c'est en fait la société. Donc c'est la société centrale, on va dire la holding, qui prend en charge les coûts de cette installation là, qui fait un prêt, un apport à la société, à la JV que vous avez créée avec les fondateurs, avec l'agriculteur, qui ensuite va rembourser au fur et à mesure avec les bénéfices cet apport qui a eu lieu. C'est super, c'est un super modèle.
Et après, il y a la partie commercialisation, c'est que du coup, dans vos responsabilités, vous vous chargez de la commercialisation, au moins au niveau national, des produits finis du producteur.
Nous avons recruté une directrice commerciale qui aujourd'hui travaille très bien d'ailleurs, parce que nous sommes référencés chez Monoprix, Franprix, Auchan, Système U dans certains endroits, certains Intermarchés, certains Leclerc. Carrefour vient de nous référencer, donc nous avons fait un gros travail en 2 mois.
Ouais.
Hein, on a commencé à produire au mois de mars, c'est ça.
Pour l'instant, c'est un seul producteur.
Un seul producteur, qui est capable de produire, on va dire, 120 000 pots à l'année.
À l'année, ouais. Donc ça reste une petite production.
Sauf que
120 000 pots à l'année, quand même.
C'est déjà pas mal.
Une petite production.
Oui, on va dire. Et surtout, c'est par rapport à la taille du marché.
C'est
50 à 60 000 litres
transformés de lait, transformés en glace.
Et surtout, ça représente combien de sa production de lait à lui, en fait?
Entre 10 et 15%.
Ah, d'accord.
Pas davantage.
Ah, d'accord. Je pensais que c'était
pas davantage.
Parce qu'il faut pas que ça représente, il faut pas qu'il en devienne dépendant et que ça représente un risque, c'est ça?
Nous ne voulons pas créer de dépendance non plus.
C'est ça.
Il faut qu'il continue à vivre de revenus, pas d'un seul.
Bien sûr.
Pourquoi?
Bien sûr.
C'est vrai.
Et lui, il vend plus en local ou via vos circuits de commercialisation nationale?
Il vend beaucoup plus avec les circuits de production nationaux, de distribution, nationale, puisque localement, les clients, faut s'en occuper et eux, ils travaillent, ils produisent la glace, donc ils ne sont ouverts que le samedi. Le samedi.
Donc une grosse partie, c'est vous qui vous chargez de la distribution via les centrales.
Nous sommes accessibles sur un site internet de produits artisanaux locaux qui s'appelle Pour de Bon.
Qu'on connaît bien. On a eu l'occasion de faire un épisode avec Nicolas Machard, le fondateur. Vous avez bien expliqué.
Et ça marche très bien. On a des retours. On a des TripAdvisor à 5 étoiles partout. Les gens qui ont goûté savent quel est le très bon goût de notre glace et son originalité.
Ils sont livrés par Chronofresh, je suppose,
avec Chronopost.
Et puisqu'on parle de la distribution, c'est fait en un temps rapide, parce qu'en 2 mois, vous êtes déjà dans quasiment toutes les centrales. Ça a été difficile de vous imposer. Alors, je me doute que quand on est associé Arnaud Montebourg, ça doit ouvrir quelques portes et on doit avoir accès au président des grandes centrales. Mais comment ça s'est passé d'ailleurs? Parce que c'est rare. On a eu beaucoup d'entrepreneurs dans ce podcast. En général, on galère pour se faire distribuer assez rapidement dans les grandes centrales.
Ah, moi, je vais parler pour mon point de vue. En fait, tout s'est combiné, malheureusement, avec les événements qu'on a connus.
Oui, en plus, dans un contexte particulier.
Cette démarche, de toute façon, des consommateurs d'acheter local, d'avoir une traçabilité sur leurs produits, de savoir ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Ouais. Donc ils avaient déjà cette notion là et de plus en plus. Et donc le fait d'avoir des produits et une marque comme la Mémère, ça a un sens. Ça a un sens à la fois pour les consommateurs, mais c'est aussi un sens
pour les
distributeurs, les patrons de magasins qui se disent OK, nous on veut mettre en avant les produits locaux, artisanaux, bio et totalement naturels. Et donc du coup, la demande en fait se fait naturellement. Et a été aussi accentué et accéléré, alors par le travail bien sûr de notre directrice commerciale, mais surtout aussi par les événements qui ont fait que nos modes de vie et nos modes de consommation ont été chamboulés par les événements sanitaires qu'on a connus. Donc du coup, ça a accéléré et accentué aussi ce besoin, cette envie des consommateurs. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une évolution commerciale très intéressante et qui est de bon augure pour la suite.
Bien sûr. Et en plus, je pense que finalement, il y a plein de tendances qui se sont accélérées pendant cette crise sanitaire. Et vous aviez déjà une démarche qui était dans l'air du temps. et qui est encore plus, je pense, aujourd'hui. Et c'est une demande des consommateurs. Donc, je pense que la distribution, ils sont ravis de pouvoir proposer ce type de produits à leurs consommateurs. Justement, ce qui nous fait venir sur la partie marketing, parce qu'on avait commencé à évoquer, il y a une question déjà sur la marque. C'est même une question qu'on nous a posée sur LinkedIn. Donc, avant de venir vous voir, on a partagé avec nos auditeurs qu'on venait vous voir s'ils avaient des questions à vous poser. Et notamment, il y a Marie-Lise Saba qui pose la question, pourquoi les noms de cette marque à la consonance rétro? C'est pour faire plus vrai, pour inspirer confiance. C'est peut-être la réminiscence d'une histoire familiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire derrière la marque?
C'est une histoire personnelle, en fait. C'est une de mes trouvailles. C'est pas une agence qui a trouvé, c'est moi qui est. Comme ça, pourquoi? Parce que quand j'allais chercher du lait avec mes grands-parents dans le Morvan, quand j'étais enfant, on allait chez des dames qui avaient deux vaches, et il y en a une qui s'appelait la mémère. On l'appelait comme ça. Nous, voilà. Les gamins, on l'appelait comme ça. Et donc, la vache, c'est la vache s'appelle la mémère. Comme il y a la bergère, comme elles ont toutes des petits noms, finalement, familiers. Et donc, c'est un souvenir d'enfance.
Donc, c'est une histoire
qui est revenue à la surface. Et je me suis dit, tiens, c'est une très bonne idée. Et c'est tout à fait personnel. Voilà. Et sincère.
Et aujourd'hui, les stratégies en termes des communications, c'est laquelle? C'est plutôt du bouche à oreille par la qualité du produit. Vous planifiez à faire des investissements marketing détail, peut-être de.
Notre position est d'abord de faire connaître le produit, parce que c'est le produit qui est le meilleur
ambassadeur.
Quand on a goûté cette glace, on en rachète et on en parle. Ce sont les consommateurs qui postent sur les réseaux sociaux ce qu'ils pensent de la. Et ils le font d'eux-mêmes parce que
ce que vous observez déjà, il y a de très bons retours des consommateurs,
bien sûr, et on a de très bons résultats des premiers mois en vente dans les supermarchés.
Avec du réachat.
Je confirme, j'étais chez Monoprix à côté de chez moi pour acheter, pour goûter avant de venir vous voir. Et j'ai eu les derniers pots au chocolat et il n'y avait plus rien, en fait. C'était une rupture déjà. Donc, je suppose que la demande.
Oui, on a des recommandes partout, des ruptures. Ils recommandent des palettes. Donc, nous sommes victimes de notre succès. Et nous allons tenir le niveau des approvisionnements. Parce que la production à mon tour fonctionne bien avec l'équipe de Patricia et Nicolas Morin. Voilà.
Surtout qu'on rentre dans la haute saison pour la glace là.
Donc notre vision c'est d'abord le produit, ensuite le partage de la valeur avec les agriculteurs, donc de raconter l'histoire de notre alliance avec les agriculteurs parce que on partage les profits. C'est plus l'industrie de la glace qui capture les profits au détriment des gens qui travaillent. Mmh. C'est ceux qui travaillent qui sont justement rémunérés pour leurs efforts. Et en plus, qui travaillent bien selon les règles de l'art, de l'artisanat. Mmh. Et qui, en plus, nous donnent un très bon produit. Voilà. C'est ça que c'est... À un prix qui est un prix de marché. Mmh. On est moins cher que toutes les glaces bio qui sont en vente. Hein.
Mmh. C'est ça qui est très important.
Je rappelle que la glace bio, sur le milliard de la glace vendue, c'est 1,7% du marché. Ah, il n'y a pas de concurrent.
Oui.
Nous n'avons pas de concurrent en glace bio, très peu. Très peu. Vous avez des glaces paysannes, vous avez des glaces bio, c'est vrai, mais elles ne sont pas distribuées, elles n'ont pas cette ampleur, elles n'ont pas cette ambition.
Oui.
Voilà. C'est donc pour nous, nous nous plaçons quand même nos ambitions de façon très 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 élevée parce que on veut que cette marque s'installe dans l'esprit collectif parce qu'elle raconte l'histoire de la réhabilitation de la fonction nourricière de la société.
Et puis c'est vrai que ce que je comprends là aujourd'hui, c'est que là où elle est différente des autres projets équitables comme C'est qui le patron, c'est que vous allez pas juste proposer d'acheter le lait plus cher, parce que de toute façon, vous pourriez pas dire, voilà, on l'achète deux fois plus cher pour le vendre en brique de lait, c'est que c'est aussi, vous apprenez au producteur à le valoriser lui-même en captant la valeur c'est lui-même, parce que c'est lui qui le transforme, et c'est ça la
c'est
vraie innovation.
C'est un projet très radical et complètement transformateur des conditions économiques de l'agriculture. Et c'est un modèle, je l'ai déjà fait dans l'apiculture, on l'a fait dans la mandiculture, maintenant dans le lait et la glace, on va pouvoir aller faire dans tous les secteurs.
Le déployer dans toutes les filières agricoles, et elles en ont besoin, donc c'est intéressant. On avait une autre question d'ailleurs sur la marque d'une auditrice, Darina Senagi, qui disait « Je voudrais savoir quelle est la cible de cette nouvelle marque, et je pose la question car au-delà de l'aspect CSP, j'ai peur que la présence d'Arnaud Montebourg colore politiquement la cible et qu'elle voulait savoir comment, David, tu gérais ça.
Moi, dans le projet, en fait, à la limite, on parlait tout à l'heure des raisons. Moi, sur le papier, j'ai aucun intérêt à aller dans un projet comme celui-là, sauf à être vraiment à la genèse, en fait, des choses. Donc, c'est une affaire de rencontre, c'est une affaire de démarche, de pouvoir accompagner les producteurs, de monter ce projet-là et de monter cette entreprise pour pouvoir fabriquer directement à la ferme. C'est plus une envie et une démarche plus de conviction personnelle. C'est-à-dire que mon métier, c'est de fabriquer de la glace à la limite pour mes boutiques. J'ai pas été moi intervenant comme un consultant où on a dit tiens on a une idée on va aller chercher un gars qui sait faire de la glace.
Ouais.
Non c'est pas ça, c'est vraiment une histoire de rencontre, de démarche. Alors on a tous nos raisons et nos envies propres, hein, mais c'était une démarche vraiment consentie et globale pour avoir un cercle vertueux autour d'une fabrication artisanale directement à la ferme et de valoriser vraiment cette rencontre entre l'ouvrier et le producteur. Et donc du coup, il n'y a pas de calcul commercial ou politique ou quoi que ce soit. Chacun a sa démarche propre et on voit bien aussi dans le modèle économique et dans la construction économique aussi du projet. Si c'était une démarche commerciale, on l'aurait pas fait comme ça. On aurait fait les choses autrement pour se dire oh ben on veut faire ça pour faire du profit. On n'aurait pas du tout été dans cette même démarche que tu soulignais tout à l'heure. Où là tout le monde c'est gagnant-gagnant. Ouais. C'est-à-dire que c'est le travail collectif qui va faire que on arrive à avoir des résultats et on va pouvoir partager les fruits de ces résultats. S'il n'y en a pas, bah, tant pis pour tout le monde. Mais ça aurait été.
Et c'est grâce à cette mission, d'ailleurs, que vous arrivez à fédérer des producteurs, des partenaires et surtout maintenant des consommateurs qui veulent s'engager au-delà du goût du produit. Hein, qui, j'ai pas encore eu la chance de goûter, qui doit être certainement très bon, mais le consommateur il va sur votre marque parce qu'il a compris qu'il avait des valeurs très fortes.
Mmh. Mais c'est surtout qu'il y a énormément de producteurs en France qui, on l'a évoqué tout à l'heure, compte tenu des difficultés, essaient de se diversifier leur activité et qui ont déjà fait appel à des sociétés étrangères pour payer des sommes astronomiques, des investissements astronomiques dans du matériel pour essayer de faire de la glace sans formation, sans process, avec des ingrédients chimiques, etc.
Ils vont s'endetter à titre personnel.
Ils vont s'endetter à titre personnel et au bout du compte, le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent et pas à la hauteur pour valoriser aussi leur savoir-faire et leur travail et leur exploitation. Donc, en fait, ils sont perdants parce qu'au bout du compte ça s'essouffle et puis ça enrichit en fait ce type de sociétés qui sont étrangères, il y en a aucun, et donc c'est aussi le point de départ du démarrage du projet de ce constat. Ouais. et de construire ce modèle qu'on a exposé pour pouvoir fabriquer cette glace la mémère.
Et d'ailleurs quand bien même ce producteur il arrive à maîtriser la qualité de son produit, il n'aurait jamais la capacité tout seul d'aller le distribuer de manière un petit peu plus quantitative. Non. Et c'est là l'autre approche intelligente de votre... On n'est pas rémunéré pour ce podcast, mais c'est qu'on croit vraiment beaucoup au modèle, mais c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'amener cet accompagnement dans la distribution, dans le réseau national.
Et sur votre... sur l'objection de votre auditrice, sur le caractère politique, mais c'est de la politique, au sens le plus noble du terme. Payer les agriculteurs, c'est de la politique. Refaire du Made in France dans la glace, c'est de la politique. Le circuit court... c'est de la politique, l'écologie du produit, c'est de la politique. Et mais c'est comme un journal a écrit, je crois que c'était Le Monde, dit les glaces politiques d'Arnaud Montebourg. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une vision derrière qu'on met en pratique. Donc il n'y a pas d'incohérence et de mensonge dans cette histoire. Il y a juste que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, je dois vous dire que j'avais lu un très bon article dans la Harvard Business Review, à laquelle je suis malheureusement maintenant depuis trop longtemps abonné, je devrais pas trop lire, mais c'est très intéressant, sur la question des marques clivantes. Les marques clivantes sont celles qui recueillent le plus d'adhésion. Parce que ceux qui aiment s'affrontent avec ceux qui n'aiment pas. Et donc, ça diminue le nombre d'indifférents. Donc, à chaque fois que vous perdez quelqu'un parce qu'il vous aime pas, bah, vous gagnez quelqu'un parce que finalement, vous avez compris que quelqu'un sortait de l'indifférence grâce à celui qui vous aime pas pour entrer dans l'adhésion. Ouais. Donc, finalement, la marque clivante, si la mémère pouvait être une marque clivante, on gagnerait encore plus de clients. Vous voyez?
Peut-être avec la couleur politique.
C'est notre vision du marketing. Aucune concession.
Nous faisons, c'est vrai, nous avons une vision politique de la renaissance de l'agriculture et nous avons une vision économique du partage de la valeur, une vision humaine de l'alimentation et de la manière de la produire. Et tout ça, ça fait une glace géniale. Voilà, on est content de notre produit, on est fier de ce qu'on fait. Et on est heureux de faire ça, parce que c'est une aventure humaine, avec David, avec Stéphane, Maxime, notre ingénieur agro. Quand on va sur le terrain, qu'on part en bagnole pour aller traverser la France et rencontrer les agriculteurs, qu'on passe une journée, qu'on partage le déjeuner, qu'on réfléchit ensemble, qu'on se dit comment on va faire, tout ça, c'est passionnant. Ah, donc ça, bon, pour moi... J'ai pas changé quand je faisais de la politique, je faisais du terrain, je passais du temps dans les fermes.
On reconnaît l'intonation.
Eh bien là, vous avez en face de vous un homme heureux.
Ouais, c'est ce qu'on voit.
Tant mieux.
Mais c'est un sujet intéressant d'ailleurs de savoir comment on peut avoir le plus d'impact pour justement changer l'agriculture. Est-ce que c'est dans la politique ou au contraire ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Et je rebondis sur ça parce qu'on a eu cet échange avec quelqu'un, un profil très intéressant, mais qui a fait l'inverse. C'est Claude Gruffat, je sais pas si tu le connais, c'est l'ancien président de Biocoop, qui lui a changé beaucoup de choses dans la vie privée. Biocoop est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à lui et son engagement. Mais il a voulu continuer ce combat pour aller plus loin dans la politique. Donc c'est l'inverse de toi. Mais c'est intéressant de savoir. Pour toi aujourd'hui, si on veut modifier ce modèle agricole, c'est dans la politique ou dans le monde privé que ça se joue?
La politique, j'ai donné 20 ans. Bon, je considère pas avoir réussi. En revanche, bon, c'est toujours très ample, très large, on fait des grands discours, très bien. Mais là, le sujet, c'est que c'est modeste, c'est très concret.
C'est du très concret.
C'est du très concret, et donc c'est réel.
Et si demain, vous avez 50 producteurs de lait avec vous, et peut-être je vous en souhaite bien plus, là, vous aurez de l'impact.
Oui.
Vous avez déjà de l'impact avec un.
Oui, exactement. Ouais. C'est ce qu'on fait.
Et peut-être plus que certains politiques. Malheureusement.
Écoutez, laisse le soin aux observateurs de dire ce qui est le meilleur. Pour moi, c'est différent et complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être les deux dans une vie. C'est ce que j'ai fait les deux. J'aurais fait les deux dans ma vie. Je pourrais mourir en me disant, j'ai servi à quelque chose sur cette terre.
Et si on revient donc sur la partie financement, on a évoqué donc les montants des 300 000 euros pour installer l'équipement dans la ferme et pour que l'agriculteur puisse commencer à produire lui-même. Ces financements, cet argent est apporté par la holding, donc la MMR. Comment cette holding, elle est financée? C'est les quatre associés qui ont mis de l'argent. Vous avez levé de l'argent auprès des investisseurs. Comment vous avez financé?
Nous avons nous-mêmes mis un bout de nos économies quand même, faut pas non plus qu'on l'oublie.
Commencer par ça.
Oui, c'est d'abord ça. Ensuite, parce qu'on croit au projet.
Bien sûr.
Ensuite, la société japonaise, franco-japonaise, dont Stéphane est le dirigeant, a fait la première augmentation de capital, donc le premier tour, pour financer le lancement et l'installation
de la première ferme,
de la première ferme et des autres. Donc nos actionnaires sont des petits actionnaires, en fait. Ce sont des gens qui ont une taille modeste et qui ont décidé de nous soutenir. Alors, il se trouve que nos associés franco-japonais, c'est une famille de Japonais qui, en 1945, se sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie et qui ont importé au Japon toute la boulangerie française.
D'accord.
Et la levure, le pain, le matériel. Et on réussit à créer cette alliance entre la France et le Japon. Donc, on est très content d'avoir nos amis japonais dans le capital.
Il y a une expertise sur les savoir-faire.
Et nous allons continuer à lever de l'argent pour la suite des installations au fur et à mesure de nos investissements dans les prochaines fermes. Voilà.
Et est-ce que ça pourrait donner l'idée de peut-être lancer l'équivalent de la MMR au Japon, par exemple, qui est...
Nous, quand nous aurons suffisamment... car il faut d'abord être prophète en son pays. Quand on aura déjà couvert toute la France, qu'on aura des fermes dans toutes les régions, parce que c'est ça notre objectif.
Bien sûr.
D'abord toutes les régions.
On
est en Bretagne, et il faut qu'on aille partout ailleurs, y compris il y a des régions qui sont moins laitières, donc il faudra qu'on trouve des solutions. Eh bien, parce que c'est d'abord le circuit court, ultra court, qui nous intéresse. Eh bien, là, on verra comment on peut se porter à l'extérieur.
Mais la vision, c'est peut-être de répliquer ces modèles, peut-être en Europe ou ailleurs, une fois que vous avez fait vos preuves en France.
Pour l'instant, on en est là. Chaque chose en son temps.
Il y a du boulot encore, mais ouais.
Et puis aussi, il y a un paramètre, c'est que la France, il n'y a aucun autre pays dans le monde qui a autant de savoir-faire, de richesses, de produits.
de producteurs, en termes de variété et en termes de qualité aussi, on a un pays exceptionnel.
Tu veux dire dans le lait, au-delà du lait, justement,
au-delà du lait,
dans toutes les autres filières.
Dans toutes les filières. Donc, la France est déjà un terrain de jeu énorme. Donc, ouais, déjà.
Après, le miel, les amandes, le lait, il y a certainement plein d'autres choses à aller explorer. Passionnant d'ailleurs.
Bah justement, on va parler de la suite. Ouais. On a une rubrique dans ces podcasts qui, c'est quels enjeux pour la suite. Et en plus, là, c'est notre premier podcast post-Covid, post-confinement. Donc, je pense que ça prend encore une autre ampleur. Déjà, pour commencer, quelle est un peu votre vision pour la MMR? On a un peu évoqué, mais la MMR d'ici 5 à 10 ans, comment vous imaginez la MMR plus tard?
Vous êtes d'accord,
David, qu'est-ce que t'en penses, David?
Moi, mon œil technique, je pense qu'il y a des choses à développer, d'autres choses à développer, ou d'autres partenariats autour d'autres savoir-faire, d'autres producteurs. Je pense qu'il y a extension. Par exemple, autour du fruit, par exemple, autour, autour de desserts qui sont laitiers, qui peuvent aussi être produits directement sur l'exploitation. Il y a des choses qui sont réalisables de façon artisanale sur le même modèle.
Avec les mêmes équipements que vous avez.
Avec les mêmes équipements ou avec une petite extension. Donc, dans ce domaine de la glacerie, par extension, c'est la glacerie, c'est la pâtisserie. Il y a énormément de choses à faire.
C'est la transformation sur les sites de production.
Dans la transformation directement sur l'exploitation. Donc là, on a un terreau très important de possibilités. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La France a des richesses énormes. Donc, avec cette démarche, je pense qu'elle est reproductible sur d'autres catégories de produits, d'autres modèles. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, on a déjà du travail à développer, étoffer la gamme avec de nouvelles saveurs, aussi pour correspondre aussi à des demandes croissantes et puis aussi montrer qu'on est en pleine évolution au niveau de la recherche, au niveau des ingrédients, au niveau des produits qu'on va pouvoir proposer dans tous les magasins et dans toutes les partenaires qui nous suivent.
Donc, si on synthétise, en fait, c'est un développement à la fois géographique avec des nouveaux producteurs qui vont arriver et qui vont pouvoir produire ça localement, mais aussi élargir un peu l'offre avec peut-être des nouvelles références, des nouveaux produits qui viennent enrichir tout ça.
Toi, Arnaud, comment tu vois pareil, même vision, j'espère.
Oui, on est en ligne. C'est sûr que déjà réussir le lancement, ça fait 2 mois.
Ouais.
C'est quand même pas mal, ce qu'on a déjà fait. Et maintenant, élargir. Et surtout, construire nos associés, nos associations futures avec des paysans.
Bien sûr.
Et c'est ça que je fais en ce moment. Dès qu'on a pu déconfiner, j'ai pris la bagnole et j'ai commencé à aller voir tout le monde. Ouais. Tous ceux qui nous avaient demandé. Et là, ça recommence, les candidatures arrivent.
Il y a beaucoup de candidatures.
Oui, il y a des candidatures et il y a toujours, beaucoup de choses à discuter. Puis c'est, pour un paysan, c'est un bouleversement. Donc il y a besoin de réfléchir. Et nous aussi. Donc c'est de se revoir, discuter, donc ça c'est la même ère. Personne y a que nous pour faire ça, parce qu'on aime ça, on aime le terrain, on aime les gens, on est amoureux de l'agriculture, on est passionné de ce métier d'agriculteur. Puis franchement, on a envie de travailler avec eux, de les aider. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a c'est affectif,
bien sûr.
On a un job affectif là.
Bien sûr.
Vous voyez. Donc ça, c'est un peu ce que dit David. On a de grandes ambitions pour la MMR. En fait, on a de grandes ambitions.
Ben, on l'a senti.
Si je suis agriculteur et je souhaite me candidater, comment ça marche en fait?
Faut nous écrire sur le site la MMR ou me mettre un message sur LinkedIn. Ça marche très bien. Je les lis et j'essaie de répondre. J'en ai tellement, mais c'est tout à fait possible. Voilà.
Super. Le message est passé. Justement, on avait une question. On l'a un peu évoqué de Christophe. Pointo sur LinkedIn, pour toi Arnaud, après les amandes, le miel, la glace, quels sont les autres produits français qui ont besoin d'être mis en valeur, relancés, modernisés, et où il y a des opportunités de développement, et quelles sont les recommandations pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer pour créer ou reprendre une entreprise existante?
Je dirais à Christophe, il va dans un supermarché, et il prend tout ce qui est d'importation,
voilà,
et il s'interroge pourquoi on le ferait pas en France. Je parle pas de ce qui est exotique,
ce qui pousse pas, mais tout le reste. Pourquoi?
Oui, même c'est que, bon.
Pourquoi ça n'est pas fait en France? Ouais. Et il faut reprendre. Faut aller dans un supermarché, dans le rayon alimentation, c'est très énorme, gigantesque. Pourquoi on le fait pas en France? Ouais. Sur une autre méthode. C'est ce qu'on a fait, nous.
Bien sûr.
Voilà, le miel, les amandes, la glace, et il y en aura plein d'autres.
Généralement, pour vous, on était avec les présidents des Kibio qui portent différentes marques, notamment Priméal, qui est une marque très forte dans les bio. Et un de ses produits phares, c'est la quinoa,
ouais,
qui vient des Bolivie.
Par exemple.
Et là.
Et pourquoi ça ne pousserait pas ici?
Ça pousse, bah, hein, il y en a 100, on en pousse. Ouais,
et ils commencent à faire des tests en Camargue, ouais, en rotation avec les riz. Donc,
surtout que les Français en consomment de plus en plus. Et le bilan carbone,
c'est très bon
pour la santé, mais le bilan carbone, il est catastrophique. Donc, il y a un vrai sujet de ramener du quinoa en France.
C'est clair.
La production du quinoa en France.
Et justement, on parle de la. Je pense que c'est quelque chose dont tu fais souvent référence, Arnaud, c'est la démondialisation. Et là, on a eu un épisode quand même qui va nous marquer, qui a marqué l'histoire de l'humanité moderne au moins. Comment tu vois un peu l'évolution de la démondialisation après
Covid? C'est ça, c'est les glaces circuit court, c'est des glaces démondialisées.
Voilà, on est d'accord.
Ouais. On va c'est pas faire venir de la glace du fin fond de l'Allemagne ou d'Angleterre, à quoi ça sert? On peut faire là. Tout ce qu'on peut faire là, il faut le faire. Et trouver, améliorer le modèle économique pour que tout le monde puisse en vivre.
Mm-hmm.
Voilà, c'est tout. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut faire ici, il ne faut pas le faire ailleurs. Bah, il y a de quoi faire. Hein.
On est d'accord. Après, ça,
dans l'industrie, dans l'agriculture, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Keynes, un grand penseur de l'économie qui a sauvé l'économie américaine puisqu'il a inspiré le New Deal de Franklin Roosevelt, président américain des années 30. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses dans l'industrie, l'agriculture et même les services.
Je suis 100% d'accord avec toi, mais la globalisation nous a éduqués à avoir accès à des choses à pas cher. Et donc, les consommateurs aujourd'hui, on doit les réapprendre à consommer différemment.
Mais est-ce qu'on pourrait faire le tri entre dans tout ce qu'on consomme et qui est inutile? Est-ce qu'on pourrait bien imaginer sûr. Et d'ailleurs, je crois qu'aussi tout le monde a réfléchi sur l'acte de consommer. Se nourrir mieux en payant le prix de l'alimentation, en payant le prix du travail de l'agriculteur, c'est plus important. De quoi on a besoin? On a besoin de se nourrir, de se loger, de se soigner, de s'éduquer. Ça, c'est fondamental. Voilà. Bah, travaillons déjà là. Après le reste, on va s'arranger. D'accord? Et de se transporter pour faire tout ça. Bon. Donc, faisons déjà l'essentiel. Et quand on regarde l'essentiel, bah, les Français ont commencé à se rééduquer en se désintoxiquant de l'achat inutile. Et là, il se passe des choses quand même. L'alimentation dans les années 60, c'était 25% du pouvoir d'achat d'un ménage moyen français. Dans les années 2020, c'est 15%. Bah, faudrait pas remonter un peu.
On est d'accord.
Et diminuer le prix du logement. Parce qu'il y a un petit sujet là. On dépense trop d'argent dans le logement. Et pourquoi? Parce que tout le monde est concentré dans les mêmes endroits où il y a une flambée du prix de l'immobilier. Alors que les prix s'écroulent partout ailleurs. Hein? Vous voyez ce que je veux dire pour le télétravail?
On est d'accord.
Et augmenter le pouvoir d'achat pour pouvoir mieux se nourrir. Ben voilà, donc c'est le circuit court. Donc on peut imaginer, moi je serais un dirigeant gouvernemental aujourd'hui, je travaillerais à diminuer le prix du logement et augmenter le prix de l'alimentation. Voilà. Au lieu de faire toujours l'inverse. C'est ce qui s'est passé depuis 30 ans.
On est d'accord.
Les prix du logement explosent et on subventionne les gens pour qu'ils puissent se loger. Et pendant ce temps-là, on laisse mourir l'agriculture. Et on importe l'alimentation, c'est absurde. C'est ça la démondialisation. C'est assez concret, c'est assez modeste d'ailleurs, c'est pas des grands discours. Non. Ça, c'est un produit qui est issu de cette pensée-là. Le Made in France, c'est la démondialisation.
Et finalement, ce qui peut contribuer à tout ça, c'est un peu contradictoire, mais c'est finalement la technologie qui va permettre aux gens faire du télétravail, de partir ailleurs et de relever la pression sur l'immobilier.
Et puis aussi les nouveaux moyens d'information, les réseaux sociaux, les podcasts aussi, parce que là, on vient de passer une heure et demie à parler de ça. Clairement, vous m'avez convaincu et je pense que c'est plus difficile. Donc, c'est tout ça aujourd'hui est possible.
Content de vous avoir convaincu. Ouais. Ça me fait plaisir.
Bah, il reste à convaincre les auditeurs qui nous
écoutent. Il faudrait que vous alliez acheter deux pots de la même aile.
Avant de venir. Bah, du coup, on arrive vraiment à la fin du podcast. On a des questions rituelles pour terminer. Un peu plus personnel, on va dire. Et la première, c'est là, on va rester sur les cas de la mémère, hein, pas sur vos vies professionnelles d'avant. Quels étaient, depuis les lancements ou depuis les démarrages du projet, les plus gros échecs ou apprentissage que vous avez vécu et la plus grande fierté réussite avec ces projets.
David,
bah, les échecs, heureusement pour nous, on n'a pas encore vécu. voilà, entre la genèse du projet, le développement et tout ce qu'on a mis en place avec nos premiers partenaires, bon bah pour le moment ça se passe bien.
Tout on s'est passé conforme. Comme vous l'aviez prévu à peu
oui,
près. Il n'y a pas eu de
globalement,
rebond. De...
Oui oui oui. Bah, oui. Mais c'est ce qu'on disait, c'est une aventure humaine aussi.
Oui, ça
donc
peut arriver,
donc il faut déjà un certain temps pour bien identifier aussi ses partenaires. Et c'est ce que disait Arnaud, le travail de fond qui est fait sur le terrain, aller rencontrer les partenaires potentiels pour bien cibler, c'est une association, c'est comme un mariage, hein. Donc il faut bien aussi réfléchir aux choses et mesurer le pour et le contre. Donc là-dessus, j'allais dire pas d'échec et la plus grande fierté, bah, c'est d'avoir mis à jour ce projet, parce que entre l'idée et la concrétisation, c'est une affaire de compétences, et l'association de toutes les compétences de toute l'équipe pour construire et mener à bien ce projet, bah, ça c'est déjà une belle fierté.
Combien de temps entre la première idée et les lancements?
Un an.
Que dire,
petit on a mis un an pour monter tout ça.
C'est pas mal.
Et toi, Arnaud, tes fiertés, tes...
Bah, les échecs, comme dit David, pour l'instant, on en a.
C'est jeune.
On les a évités. Mais la question humaine, elle est centrale. C'est là que ça marche ou ça marche pas. Pour moi, c'est là qu'est le point de fragilité de tout ça. C'est que ça repose sur des gens qui ont des affinités électives, comme disait Goethe. Ah, c'est des atomes crochus. Voilà. Ça, c'est la fragilité, mais en même temps, c'est la force. Voilà. La fierté, c'est qu'on est des gens très différents. David, Stéphane, Maxime, des gens très différents. Ouais. Et depuis le début, ce qui nous a propulsé, c'est l'idée. Une idée emmène des gens très différents pour transformer la société. De façon très micro, invisible, hein, c'est minuscule. Mais donc une idée peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et ça, c'est notre fierté à nous tous. Et franchement, les rencontres ont été, c'était fantastique. Voilà. Voilà.
On a une autre question rituelle dans le podcast. Bon, vous êtes tous les deux des entrepreneurs de la bouffe maintenant. Enfin, vous y êtes depuis longtemps même. Quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur de la bouffe? Justement, c'est. Enfin, je ne vais pas répondre à votre place. Enfin, quel conseil vous donneriez?
Bah, la vide.
Ben, beaucoup de travail déjà. Ouais. donc, de la passion au départ, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'improvisent entrepreneurs dans la bouffe ou dans les domaines de l'alimentaire, soit par plaisir, par affinité, parce que à la maison on aime bien faire à manger pour les copains, ou on est passionné de pâtisserie, ou voilà. Donc, et entre la réalité, le plaisir et la concrétisation et le quotidien, ben, je peux vous dire que c'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. On parlait d'échecs, beaucoup d'énergie dépensée, surtout dans la conjoncture actuelle où on a des difficultés qui sont là, hein, depuis des années. Bon, voilà, il y a quand même des difficultés à entreprendre, même si on a un beau pays, mais c'est quand même très difficile de creuser, de faire son trou et de pouvoir construire une entreprise. Et puis après, avec les événements qu'on a connus là récemment, ça met une deuxième claque, on va dire, qui peut être vraiment mauvaise et qui peut casser carrément cette dynamique qu'on peut avoir dans les entreprises. Donc, il faut bien cerner les choses, bien. Et moi, je le dis aussi aux jeunes ou aux moins jeunes. J'ai beaucoup d'adultes en reconversion qui viennent se former également pour s'installer, qui ont le projet de s'installer. Je leur dis, réfléchissez bien à ce que vous faites, comment vous le faites, prenez le temps. Cernez bien les choses, n'ayez pas peur de demander ou de me demander aussi le recul, mon recul sur une exploitation, les coûts, parce que bon, il y a toujours des choses qui sont induites ou qu'on ne voit pas. On voit l'aspect passion, justement, l'aspect valorisant, mais on ne voit pas l'arrière et les difficultés. Et donc ça, cernez bien les choses avant de vous lancer. Parce que quand on est parti, on ne peut pas s'arrêter. Hein. Il faut regarder droit devant et il faut foncer. Donc voilà, ce seraient mes conseils principaux.
Je dirais à un jeune entrepreneur qui se lance dans l'alimentation, je dirais l'amour du produit. Il n'y a que ça qui compte. L'amour du produit, tout savoir, tout comprendre, et puis l'améliorer. Voilà.
dans sa qualité intrinsèque, mais également gustative. Donc voilà, je dirais que ça doit être le karma, l'obsession, le mantra. Voilà. Bah, l'obsession de l'entrepreneur.
Ça tombe bien parce que notre dernière question, c'est justement un bon plan bouffe. Et vous êtes tous les deux des passionnés, des amoureux, des bons produits. Donc, est-ce que vous avez découvert des choses récentes, soit restaurant non, parce qu'ils étaient fermés.
C'est plus compliqué.
Peut-être
là.
Une livraison. Mais je sais pas, des livres, des podcasts, des séries, des films, quelque chose qui vous a changé votre façon de voir les choses dans l'alimentaire, dans l'alimentation.
Je citerai moi le film d'Edouard Bergeon qui a bouleversé la province,
Canet,
pas
oui.
assez de Paris, joué par Guillaume Canet, Au nom de la terre. C'est un film que tous les Français devraient aller voir parce qu'il dit beaucoup de ce que nous n'avons pas vu, pas abandonné. Il doit y avoir maintenant un sursaut en faveur de l'agriculture française. Il faut maintenant changer d'attitude. Et donc, ça concerne tout le monde. Voilà. Et donc, si j'avais un conseil à donner, prenez-le en VOD.
Et toi, David ?
Bah, c'est vrai que ce film m'a aussi touché, même si moi, par ma femme, donc mes beaux-parents sont d'anciens à la retraite, d'anciens exploitants, et ils ont été éleveurs. Donc du coup, ce domaine-là, je l'avais vu moi de mon œil, mais la réalité, la difficulté, c'est vrai que ça a été mis vraiment en avant dans ce film. Et puis bon, après, c'est vrai que si j'avais moi des choses que je retiens, c'est vraiment les initiatives locales. Moi, et c'est vrai que je vois beaucoup de choses dans les Hauts-de-France. Hein. Moi, je suis issu des Hauts-de-France.
Est-ce que tu peux en mentionner quelques-unes des choses
sympas? Ne serait-ce que moi, le plaisir que j'ai à aller dans les estaminets flamands, vraiment les vrais estaminets où on travaille le produit directement, où on a vraiment des spécialités locales. Et c'est une richesse culturelle et gastronomique énorme. Et donc ça, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à la fois à y aller et aussi à emmener des amis ou de la famille qui viennent.
Justement, cette année, je pense que la majorité de nous, on va passer nos vacances en France. Oui. Donc, pour ceux qui partent à Lille cet été, est-ce qu'il y a des endroits concrets que tu pourrais recommander
Autour du Mont Cassel, notamment, il y a plein d'estaminets flamands. On est vraiment frontalier avec la Belgique, donc il y a énormément de petits estaminets qui sont vraiment typiques flamands. Et là, bon, voilà. Alors, les noms sont un peu complexes, même si mon nom est flamand. Mais,
on va les mettre sur les sites, après, on va aller les chercher.
Je vais regarder vérifier l'orthographe.
Déjà, la prononciation et l'orthographe, c'est extrêmement complexe. Mais voilà, il y a des richesses. Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais, je pense que cette crise aura au moins le mérite de remettre l'église au milieu du village, de revoir les fondamentaux aussi un petit peu des consommateurs et aussi d'aller en France, de visiter ce beau pays, ces terroirs, ces agriculteurs, ces éleveurs. Il y a énormément de richesses, il y a énormément de choses à découvrir. Il ne faut pas aller prendre l'avion, aller des milliers de kilomètres pour se reposer, pour se ressourcer, pour découvrir des choses et prendre du plaisir aussi en famille. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en France.
Super. Bah, merci beaucoup pour votre temps, c'était un plaisir.
Merci à vous pour votre intérêt pour la mémère et bonne dégustation.
Avec plaisir, merci à vous deux.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com.
À très bientôt.